Et notre invité ce matin est Christophe Choumi, hypnothérapeute. Christophe, bonjour. Est-ce qu'on a Christophe en ligne?
Je suis là.
Vous êtes là, bonjour. Oui, ça y est. Bonjour. Bien.
Bonjour.
Alors Christophe, j'aimerais bien qu'on débute un petit peu, si vous voulez bien, par l'historique, l'histoire de l'hypnose qui débute au XVIIIe siècle, c'est ça?
Alors, c'est pas l'histoire de l'hypnose, c'est l'histoire de son étude scientifique, on va dire. Hein, parce que l'hypnose, elle a toujours existé. Hein, même déjà, les chamans dans la préhistoire faisaient de l'hypnose. Hein, les Égyptiens faisaient de l'hypnose. On ne savait pas que ça s'appelait l'hypnose, on l'appelait pas comme ça à cette époque, mais c'était déjà ça.
Alors moi, j'ai noté que de 1882, c'est ça?
Oui, enfin, je suis pas un historien, moi. Hein, oui. Je suis un praticien. Donc, effectivement, à partir du 18e siècle, puis après le 19e surtout, on s'est intéressé à ce phénomène psychologique et à son utilisation potentielle pour guérir, hein, puisque c'était utilisé dès le départ hein, pour guérir, pour changer le fonctionnement des individus. Ça a été beaucoup étudié au 19e siècle, notamment par Charcot, Bernheim et d'autres en France. Et même Sigmund Freud est venu en France pour se former à l'hypnose.
Alors, puisque vous parlez de Freud, effectivement, il s'est intéressé à l'hypnose, il a pratiqué, mais ensuite il a arrêté.
Alors, il a pratiqué pendant 5 ans quand même, c'est pas rien.
Oui.
Et il l'a abandonné parce que, comme il le dit lui-même dans les lettres qu'il a envoyées à ses amis, il avait du mal à mettre les gens dans l'état d'hypnose, parce qu'à l'époque, on comprenait pas bien encore ce phénomène. On savait pas trop comment l'utiliser, on savait pas trop comment le provoquer. Depuis, on l'a beaucoup étudié, et depuis, les choses ont beaucoup évolué. Donc, il l'a abandonné parce qu'il savait pas bien l'utiliser.
Alors, un institut français de l'hypnose qui est créé en 1990, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Et vous me parliez de ces recherches justement sur les techniques de l'hypnose. On avance véritablement à quel moment dans la découverte de la technique de l'hypnose?
Alors, c'est quand même au XXe siècle. Hein, c'est avec essentiellement Milton Erickson, hein, qui est un psychiatre et psychologue américain qui a passé toute sa vie à étudier l'hypnose et son intérêt thérapeutique. Il a fait plein d'expériences, hein. Il était responsable d'un centre de recherche dans un hôpital psychiatrique. Il a beaucoup étudié, il était professeur d'université, il a étudié l'hypnose dans son laboratoire, il a étudié les techniques d'induction, et ça date entre les années 30 et les années 60 à peu près. À partir de là, les techniques étaient déjà pas mal au point, mais ça n'a pas franchi l'Atlantique avant les années 80.
Alors, quelles sont les techniques, Christophe, utilisées aujourd'hui pour l'hypnose? Souvent, on dit que c'est uniquement par le regard, mais il y a la voix, il y a plein de...
Alors, le regard n'a strictement rien à voir.
Voilà. C'est important de le préciser, parce que dans les clichés, on vous regarde, on vous endort.
Voilà. Voilà. Oui. Donc, je crois qu'il est important de parler des clichés, parce que l'hypnose, c'est un phénomène... psychique réel, hein, on l'a démontré par l'imagerie médicale, hein, avec l'IRM, le PET scan, etc., les grosses machines qui permettent de voir l'intérieur du cerveau en fonctionnement. On a pu démontrer que c'est un phénomène réel, c'est-à-dire que c'est un état spécial de notre cerveau, comme il y a la veille, comme il y a le sommeil, comme il y a le rêve. Ben, l'hypnose, ça fait partie de notre fonctionnement normal. Donc, c'est rien de mystique, c'est rien de magique, c'est quelque chose de tout à fait normal. Qu'on a appris à utiliser au fil des siècles et puis beaucoup plus récemment, donc au cours du XXe siècle.
Alors, la question, Christophe, c'est justement quelle technique
Alors, elles sont extrêmement variées. Hein, justement, puisqu'on a compris que tout le monde rentre dans cet état, on a compris qu'on avait fait une erreur au début du XXe siècle en prétendant qu'il n'y avait qu'une partie des gens qui étaient hypnotisables. C'est complètement faux. Il n'y a qu'une partie des gens qui étaient hypnotisables avec les techniques de l'époque.
Oui.
Depuis, on a appris les principes fondamentaux de l'hypnose, hein, donc, il existe une infinité en fait de techniques, hein, qui, pour l'essentiel, passent par la parole, parce que ça passe par la communication. Hein, il faut provoquer chez l'individu un certain état mental. Donc il faut lui suggérer des choses, lui faire des choses. Ça peut être de la visualisation, hein, ça peut être de la concentration sur des sensations ou plein d'autres choses qui mettent en jeu des phénomènes psychiques, comme la mémoire, les sensations, les perceptions, etc.
Alors Christophe, vous me dites que l'hypnose, ça marche chez tout le monde, mais chez les réfractaires, on peut se retrouver aussi avec une difficulté.
Alors oui, mais le problème, c'est plutôt une question de confiance avec la personne en face, hein, avec l'hypnotiseur. Si on n'a pas confiance en lui, effectivement, on peut complètement bloquer le processus, c'est évident, et les réfractaires sont des gens plutôt méfiants ou craintifs, qui veulent pas se laisser aller comme ça avec n'importe qui.
Alors justement,
à partir du moment où la confiance est instaurée, ils peuvent rentrer dans l'état d'hypnose comme tout le monde.
Alors pour rentrer dans un état d'hypnose, je suppose de bonnes conditions, silence, on est allongé, on est assis.
Alors on peut rentrer dans l'état d'hypnose dans n'importe quelle condition, mais il y a quand même des conditions plus favorables que d'autres. Effectivement, il vaut mieux être calme parce que c'est au départ une question de concentration. Donc, il ne faut pas être distrait par plein de choses. Hein. Il vaut mieux être au calme, bien confortable, de façon à ne pas être gêné non plus par l'état de son corps. Hein. Il ne faut pas qu'on ait mal quelque part parce qu'on est mal assis. On peut mettre de la musique. Hein. Certaines musiques ont un effet hypnotique manifeste. Hein. Hein, des musiques douces, sans trop de rythme, répétitives. Ça attire l'attention de l'oreille et ça permet de se concentrer dessus et de partir en quelque sorte dans l'état d'hypnose, hein, qui est en fait un état simplement de concentration intérieure dans lequel la conscience, qui est le jeu, le moi qui parle, qui réfléchit, se met en retrait. Et ce qui est important, c'est que il se met en retrait, ça veut pas dire qu'il s'arrête, c'est-à-dire qu'on ne dort pas forcément. Hein. L'hypnose, c'est pas le sommeil. C'est-à-dire que pendant une séance d'hypnose, on peut rester complètement conscient, tout comprendre, tout entendre, tout retenir. Ça fait partie aussi des clichés, hein, comme quand on dort et après on ne sait pas ce qui se passe.
Avec la peur aussi de ne pas pouvoir se réveiller.
Oui, ben alors, c'est comme si vous aviez peur tous les soirs en vous couchant de ne pas vous réveiller le lendemain matin. Hein, c'est exactement la même chose. L'état d'hypnose est un état normal de notre cerveau, on passe régulièrement dans cet état, une dizaine de fois par jour au moins, et on en rentre, on en sort en permanence. Donc on ne peut pas rester bloqué dedans, c'est pas possible.
Alors justement, le fait de rencontrer un hypnothérapeute, c'est pour arriver à découvrir la possibilité de se mettre ensuite en auto-hypnose ?
Bien sûr, c'est ce que je fais avec beaucoup de mes patients, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur le gros du problème, je leur apprends les techniques, je leur apprends à rentrer dans l'état d'hypnose, je leur apprends à reconnaître cet état, et puis je leur apprends des techniques psychologiques pour profiter de cet état et pour l'utiliser, parce que il y a un intérêt, hein. L'hypnose en soi, ça ne fait rien, c'est comme ouvrir une porte, hein. Bon, une fois que la porte est ouverte, il faut passer de l'autre côté et puis faire des choses. Hein, ouvrir la porte toute seule, ça fait rien de plus. Donc faire de l'hypnose, c'est pas seulement rentrer dans l'état d'hypnose, mais c'est aussi utiliser ses ressources psychiques pour arriver à un but donné, soigner un problème, aller mieux, développer des capacités, etc.
Oui, parce qu'en fait, l'hypnose peut s'attacher aussi bien, je dirais, en psychothérapie que sur la douleur.
Tout à fait, on peut l'utiliser en médecine, et c'était une des premières utilisations au 18e, 19e siècle, c'était sur la douleur. Avant qu'il y ait les anesthésiques modernes, on utilisait de l'hypnose pour faire des anesthésies.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, on utilise toujours l'hypnose ?
Alors, quelques-uns, c'est-à-dire que je sais que par exemple, l'hôpital de Liège, en Belgique, ils utilisent beaucoup l'hypnose pour les opérations de chirurgie esthétique, notamment.
Oui.
Hein, ils en sont à plusieurs milliers d'opérations sous hypnose, qui leur permet d'aller plus vite, d'avoir de meilleurs résultats. On constate des choses bizarres, comme avec une anesthésie sous hypnose, il y a moins de conséquences négatives, il y a moins de saignements, on cicatrise plus vite, on se remet plus vite, etc. Il n'y a pas les effets secondaires négatifs des anesthésiques chimiques.
Alors, quelle formation possible, et d'ailleurs vous organisez des formations vous-même, Christophe, quelle formation pour devenir hypnothérapeute ?
Alors effectivement, j'organise une formation au métier d'hypnothérapeute, ici en Ardèche. Je ne l'ai pas encore, je suis désolé.
J'espère que vous viendrez un jour.
Oui, bien sûr. Mais ça ressemble beaucoup, vous savez, on appelle ici l'Ardèche la petite Corse. Hein.
Oui.
Donc il y a, ce sont des écoles hein, qui forment. Donc il y a différents, il n'y a pas de diplôme national malheureusement. Hein, peut-être que ça viendra un jour, mais pas encore. Pour la, l'hypnose médicale, mais uniquement médicale, hein, donc pas la psychothérapie, il y a un diplôme universitaire hein, dans l'université parisienne. Mais pour le reste, ce sont des écoles comme l'IFH dont vous avez parlé tout à l'heure, l'Institut français d'hypnose, ou l'Institut français d'hypnose ericksonienne, ou les centres Milton Erickson qui sont un petit peu partout en France. Il y a plein d'écoles, voilà.
Christophe, vous restez avec nous. Le temps de permettre aux auditeurs de, d'appeler s'ils ont des questions au 04 95 32 22 22. Et l'hypnose est le sujet ce matin de Service Compris avec Christophe Choumet, hypnothérapeute. Et nous avons un appel de Michel. Michel, bonjour.
Bonjour. Moi, je vous appelle parce que je connais donc l'hypnose ericksonienne. J'ai une amie qui est praticienne sur Nice. Bon, j'ai fait 2 séances avec elle, mais c'est trop loin, je peux pas continuer.
Des séances pour... Pourquoi, Michel?
Ben, c'était plutôt pour me détendre, pour régler certains problèmes psychologiques, on va dire. Mais là, maintenant, ma question, elle est plutôt d'ordre physique. Est-ce que l'hypnose peut guérir ou au moins soulager durablement la fibromyalgie?
Là, c'est une question bien précise, oui, Christophe.
Oui. Alors, je n'ai pas de réponse catégorique, hein, on ne sait pas encore vraiment, on ne connaît pas très bien non plus la fibromyalgie. Ce qu'on peut faire grâce à l'hypnose, effectivement, c'est améliorer considérablement, mais vraiment considérablement, l'état de ces personnes. On peut leur apprendre à gérer la douleur, on peut leur apprendre à gérer le stress, à gérer leur corps. Grâce à l'hypnose, parce que l'hypnose, en donnant un accès à l'inconscient, permet d'agir sur le corps à un niveau très bas. On peut agir sur la douleur, hein, on l'a déjà dit, mais on peut agir sur plein d'autres éléments corporels. Donc, avec l'hypnose, je ne sais pas si on peut guérir, proprement dit, mais on peut considérablement améliorer l'état de ces malades.
Ça répond à votre question, Michel ?
Oui, et est-ce qu'il y a des praticiens sur la Corse ?
Oui, il y en a.
Oui ?
Oui, il y en a, Michel.
D'accord.
Oui.
Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup.
On vous souhaite une bonne journée.
Vous de même, au revoir.
Au revoir. Maintenant, nous allons rejoindre Caroline. Caroline, bonjour.
Oui, bonjour madame. Voilà, j'ai pris la mission en route.
Oui.
Je voulais savoir si l'hypnose pouvait guérir, enfin disons soulager d'une dépendance à... Enfin, j'ai pris en route l'émission.
Oui.
À la cigarette et après à l'alcool.
Alors, est-ce que on peut arrêter de fumer et de boire avec l'hypnose?
Alors
moi,
là,
Christophe.
Alors là, la réponse est catégorique, c'est oui.
Oui, les deux.
Ah,
d'accord.
Complètement. Complètement.
Ah, chouette. Hein.
Parce que dans ces dépendances, il y a une partie physique, mais qui est facile, enfin qui est facile. Donc les gens peuvent surmonter, hein, l'arrêt de la cigarette, on peut supporter une semaine, la dépendance physique c'est pas énorme. Avec l'alcool c'est un petit peu plus dur, mais on y arrive. Les gens font des cures de désintoxication. Mais le problème, c'est après, hein, après la cure, c'est de ne pas reprendre. Et là c'est un phénomène psychologique.
Oui.
Donc là, avec l'hypnose, on peut agir sur la psyché pour effectivement supprimer cette dépendance en travaillant directement sur ses causes. Hein, parce qu'il y a des raisons, si les gens boivent, c'est qu'il y a des raisons.
Bien sûr.
Et on ne fait rien comme ça gratuitement. Hein. Il y a toujours une raison, même si elle est cachée, si elle est obscure, si elle paraît bizarre. Elle est là quelque part dans l'inconscient, on peut la trouver, on peut travailler dessus et supprimer la cause de façon à plus avoir envie, plus avoir besoin. On peut avoir l'envie comme ça de temps en temps pour se faire plaisir, mais on n'a plus le besoin de fumer ou de boire. Donc on peut complètement arrêter de fumer et de boire.
Alors Christophe, est-ce qu'il faut que la personne soit quand même bien décidée à le faire?
Ah oui, ça oui, bien sûr. Par contre, vous m'avez parlé des praticiens en Corse. Où c'est qu'on peut trouver cette liste? Parce que vous ne pouvez pas donner de nom évidemment, mais on peut la trouver où, nous?
Bah écoutez, je sais qu'il y en a au moins deux. À Ajaccio, sur Bastia,
voilà,
je ne sais pas. Je sais qu'il y en a au moins deux sur Ajaccio et vous pouvez les trouver normalement dans l'annuaire.
Hypnotiseur, carrément.
Ah, je pense, oui.
Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup et merci pour vos émissions.
Bonne journée, Caroline.
Au revoir.
Au revoir. Christophe, oui, je reviens à la volonté de l'arrêt du tabac. Il faut vraiment arriver chez un hypnothérapeute en étant fermement décidé.
Voilà, il faut être motivé.
Il faut faut être motivé.
Parce que si on arrive à reculons, poussé par le conjoint ou la conjointe, ça va pas marcher. Hein. Il faut quand même la motivation. Mais donc ça s'adresse à des gens qui ont envie d'arrêter, mais qui n'y arrivent pas tout seuls. Mais si des gens qui n'ont pas envie, c'est pas la peine. Hein. On peut pas leur donner l'envie à leur place. C'est pas possible, ça. Il faut qu'il y ait la motivation au départ. Il n'y a pas besoin d'avoir de la volonté très forte. Juste envie. C'est tout.
Alors, ça prend combien de temps? Il faut plusieurs séances?
Alors, c'est très variable. Je dirais que dans 8 cas sur 10, une seule séance suffit.
Oui.
Mais il y a des cas plus compliqués. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des raisons pour lesquelles les gens continuent de fumer, de boire, alors que ça leur détruit leur corps. Il y a des raisons très très importantes au niveau psychique. Et parfois, c'est difficile à débusquer parce que c'est bien caché. Et il faut plusieurs séances. Ça peut aller 2, 3, 4, 5, 10 séances. C'est très très variable. Mais quand même, à 80%, une séance suffit. Hein, une seule.
Est-ce qu'il y a, je dirais, des relations entre psychothérapeute ou psychiatre et hypnothérapeute?
Entre hypnothérapeute et psychothérapeute, oui. L'hypnose, donc c'est un outil, hein, c'est oui. Un état de l'esprit qui permet d'accéder à l'inconscient et de faire un travail avec l'inconscient. Donc c'est un outil formidable pour la psychothérapie. Les psychiatres, eux, ce sont des médecins. Ils sont spécialisés dans le cerveau, ce qui n'a strictement rien à voir. Ils n'ont pas de formation en psychologie, hein, c'est juste un petit vernis culturel. Et ils ne font pas du tout le même travail. Hein. Même si des psychiatres se forment par ailleurs à la psychothérapie ou autre chose, ils restent avant tout des médecins qui s'occupent du corps. Alors que le psychothérapeute, lui, s'occupe de l'esprit. Ce qui est quand même quelque chose de complètement différent.
Alors une question d'un auditeur, est-ce que l'hypnose peut, je dirais, soigner ou aider pour les acouphènes?
Alors, eh ben, c'est une question qui tombe bien, parce que justement je vais faire une conférence la semaine prochaine sur l'hypnose et les acouphènes. On peut, comme pour la fibromyalgie, considérablement améliorer l'état des personnes qui souffrent d'acouphènes. Pas forcément les guérir, parce que malheureusement, souvent il s'agit d'un problème lié à des destructions de cellules dans l'oreille interne, et des neurones qui se mettent en roue libre, en quelque sorte, et à produire des signaux en permanence. On peut pas tellement agir directement sur eux, c'est trop profond, il n'y a pas d'accès, mais on peut considérablement modifier l'état de ces gens, de faire en sorte que ça ne soit plus un problème pour eux. Ils ont toujours l'acouphène, mais en quelque sorte, ils s'en moquent.
Oui, donc ils arrivent à se dégager de la
voilà.
Gêne.
Voilà, ils s'en dégagent, ça les dérange plus, ils l'oublient, ils n'y pensent plus, même si c'est toujours là.
Christine nous appelle. Bonjour Christine.
Bonjour madame. Oui, bonjour madame.
Oui.
J'aurais voulu savoir si on pouvait soigner le zona ou la douleur post-zona qui souvent persiste par l'hypnose, s'il vous plaît.
Alors, on va demander à Christophe le zona.
Oui. Alors, pour la douleur, bon, on l'a déjà dit, effectivement, on peut agir sur la douleur, même des douleurs très intenses, hein. Même des douleurs qui résistent à la morphine. Hein. On peut, grâce à l'hypnose, les faire disparaître, ou bien faire en sorte que ça ne dérange plus, d'une façon ou d'une autre. En ce qui concerne le zona, vous savez que le zona, c'est dû à un virus, donc on peut pas agir sur le virus par l'hypnose, mais on peut stimuler les défenses du corps, hein, le système immunitaire. On sait bien que les gens qui sont dépressifs, qui n'ont plus le moral, ont beaucoup plus de maladies que les autres parce que leur système immunitaire est aussi déprimé et fonctionne au ralenti. Et donc on peut le stimuler, comme on le fait régulièrement avec tous les placebos médicaux, hein, tous les médicaments qui sont vendus mais qui ne font rien et qui fonctionnent que par effet placebo. On croit qu'on va guérir, donc ça stimule notre système immunitaire qui répond beaucoup plus fort et qui... il permet de guérir plus vite. Donc avec l'hypnose, on peut faire ça sans aucun artifice, hein, sans avoir besoin de prendre des comprimés de n'importe quoi. On peut stimuler le système immunitaire pour guérir plus vite.
Ça
d'accord,
répond.
Je vous remercie. Oui, j'aurais voulu savoir sous quelle rubrique on peut trouver des gens qui pratiquent l'hypnose sur la Corse. Est-ce qu'on les range parmi les psys, les kinés, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi peut-être.
Ah non, mais je pense que vous les trouvez sous l'appellation d'hypnothérapeute.
Moi, je vous conseille conseille de chercher sur Internet. Hein, vous aurez beaucoup plus de résultats.
Oui.
Dans l'annuaire, vous ne trouverez pas grand-chose. Hein, effectivement, il n'y a pas de catégorie adéquate. Mais sur Internet, vous en trouverez.
D'accord, je vous remercie.
Bonne journée, Christine.
Également à vous.
Au revoir. Justement, Christophe, je voudrais en savoir un peu plus comment on arrive à toucher cet inconscient. Pour justement permettre, je dirais, au corps ou à l'individu de vivre autrement.
Ouh, alors là, c'est une question qui demanderait des jours et des jours d'explication.
Oui, un cours, une thèse.
Un cours, mais j'écris un livre, si vous voulez. Hein.
Oui.
Vous pouvez lire le livre, il s'appelle Hypnothérapie, psychothérapie sous hypnose. Hein. C'est assez compliqué de répondre à cette question. Je sais pas comment vous dire ça en quelques mots.
Bon, mais écoutez, on attendra que le livre paraisse. Dites-moi, le lien entre l'hypnose et la PNL, la programmation neurolinguistique.
Alors, la PNL est issue de l'étude par un psychologue et un linguiste d'un certain nombre de thérapeutes américains, dont Milton Erickson, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le père de l'hypnose ericksonienne dont on parle, hein, de l'hypnose moderne. Et donc, Milton Erickson a eu énormément d'influence sur la PNL, hein. Mais ça n'a pas été seul, mais c'est quand même très très grosse influence. Et la PNL, aux États-Unis ou partout dans le monde, se fait avec de l'hypnose. Il n'y a qu'en France qu'on n'utilise pas l'hypnose en PNL. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a peut-être une mauvaise opinion sur l'hypnose. Mais ceux qui ont importé la PNL en France ont enlevé la partie hypnose. Alors que si on prend les livres américains d'origine, la PNL se faisait avec l'hypnose. Donc il y a une étroite relation. Et beaucoup de techniques utilisées en PNL sont en fait des techniques utilisées en hypnose. Sauf qu'on ne dit pas qu'on fait d'hypnose. Hein, parce que l'hypnose étant un état naturel, on peut rentrer dedans sans avoir besoin spécialement de dire qu'on va faire l'hypnose, sans avoir besoin de faire des techniques particulières. Juste en orientant convenablement le discours et en provoquant chez la personne, par une simple conversation banale, des états mentaux adéquats, on peut la faire rentrer dans l'état d'hypnose, ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. Et c'est ce qu'on fait en PNL, en fait.
Christophe, on vous garde avec nous jusqu'à 10 heures. Christophe, est-ce que justement toutes ces maladies nommées psychosomatiques, parce qu'en fait on comprend pas forcément comment elles arrivent, est-ce que l'hypnose là encore est efficace? Je pense à la spasmophilie par exemple.
Alors oui, avec l'hypnose on peut, comme je l'expliquais, atteindre les parties profondes de l'esprit, hein, ce qu'on appelle l'inconscient. Et effectivement, dans ces maladies psychosomatiques, il y a des troubles au niveau de l'inconscient. Hein. Il y a des choses qui vont pas bien, hein, qui font que l'inconscient fonctionne mal et ça a une répercussion au niveau du corps. Hein. Donc il y a beaucoup de maladies qui sont d'origine psychique, en fait, et qui peuvent être soignées et complètement guéries grâce à l'hypnose, à partir du moment où on accède à l'inconscient, qu'on comprend ce qui se passe et qu'on arrive à faire des modifications adéquates.
Et c'est-à-dire aussi que l'hypnose peut aider à retrouver le sommeil et éviter tous les cachets pris par bon nombre de gens pour s'endormir le soir.
Bien sûr, bien sûr. À partir du moment où l'insomnie est due à des causes psychiques, on peut agir dessus et retrouver un sommeil très satisfaisant. Tout à fait.
Alors, les personnes qui veulent arriver à l'auto-hypnose apprennent avec un professionnel?
Il y a plusieurs façons de faire. Effectivement, apprendre avec un professionnel permet d'aller plus vite, mais ça coûte plus cher, parce qu'il faut payer le professionnel.
Oui.
Il y a d'autres possibilités. Il existe des CD, des livres, etc.
Oui, mais alors là, il faut trouver les bons, parce qu'il y a, y a de tout. Hein.
Et on trouve de tout, c'est ça le problème. Hein, on trouve de tout, du n'importe quoi aussi. J'ai fait un cours d'auto-hypnose en ligne, donc par Internet, que les gens peuvent faire chez eux à partir du moment où ils ont un ordinateur.
Oui.
Hein, donc ce sont des enregistrements de ma voix avec des exercices gradués et un suivi personnalisé. C'est l'intérêt de la chose, c'est-à-dire qu'ils peuvent m'envoyer des messages pour me dire comment ça s'est passé, s'ils ont des difficultés, si, etc. Et je leur réponds, je les guide, je suis leur progression.
C'est
donc
un site...
c'est un compromis pour tous les gens qui peuvent pas venir, évidemment.
Et c'est un site gratuit ou payant?
Ah non, c'est payant.
C'est payant.
Ah oui, faut bien que je mange. Hein.
Alors combien ça coûte une visite chez un hypnothérapeute?
Moi je suis dans les prix moyens, moi c'est 70 euros là, pour une séance qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie quand même. Hein. C'est long.
Les prix sont libres?
Enfin, oui, complètement.
Complètement.
Oui, oui. Donc on trouve moins cher, on trouve plus cher, on trouve de tout.
Alors nous parlions du sommeil, nous parlions du tabac, de l'alcool. Il y a des gens qui vivent aussi des périodes difficiles, deuil, divorce, oui. Le stress au travail. Là aussi, des solutions?
Absolument, absolument. Alors je voudrais qu'on parle du deuil, parce que le deuil c'est quelque chose d'extrêmement important, ça a des répercussions énormes. Il y a des tas de gens qui n'arrivent pas à finir leur deuil sans qu'ils s'en rendent compte, c'est-à-dire que ça les travaille intérieurement pendant des années et des années, hein, et ils se rendent pas compte que c'est un deuil qui n'est pas bien fait au niveau psychique, au niveau inconscient. Et c'est très très fréquent dans tous les patients que j'ai vus, les centaines et centaines de patients que j'ai vus.
Alors
donc effectivement, on peut, même en une seule séance, guérir des problèmes qui remontent à 10, 20, 30 ans. Simplement parce que il y avait quelque chose qui était resté coincé, comme un deuil pas bien fait ou une culpabilité de quelque chose qui remonte à tellement loin qu'on a complètement oublié, mais les conséquences sont toujours là dans l'esprit.
Alors vous parliez de l'environnement pour l'hypnose, de la musique, la voix aussi de l'hypnothérapeute est importante.
Bien sûr, la voix est importante, ça, c'est un élément important pour aider les gens à rentrer dans un état second.
Alors la voix, je suppose, Christophe, n'est pas celle que je vous entends ce matin?
Pas du tout. Quand je fais une séance d'hypnose, je n'ai pas la même voix. C'est exact.
Alors vous prenez une voix plus douce, plus...
Plus douce, je parle plus lentement, c'est très différent, oui.
Et vous échangez pendant la séance avec...
Ça dépend, mais oui, c'est possible. Hein. C'est-à-dire que, comme j'expliquais, dans l'état d'hypnose, on n'est pas endormi, donc on reste conscient. Et certaines personnes arrivent très bien à parler tout en restant dans cet état.
Alors vous dites qu'on est conscient, mais en même temps, on va chercher l'inconscient.
Absolument. Comme je l'ai dit, le conscient n'est pas arrêté, mais il est en retrait. Et donc l'inconscient peut s'exprimer de diverses manières. Ça peut être par des gestes, hein, des gestes automatiques, on en fait tout le temps. Hein. Mmh. Donc l'inconscient peut actionner un doigt, une main, provoquer une réaction quelconque visible, ou ça peut être par des images mentales, ou des pensées qui arrivent, etc. Il existe des tas de façons de faire.
Est-ce que l'hypnose marche aussi sur les enfants?
Oui, 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 très bien. Mais ce sont des techniques particulières sur les enfants, parce qu'ils vont beaucoup plus vite, hein, ils ont des cycles beaucoup plus rapides. Un adulte, on peut le mettre sous hypnose et le laisser sous hypnose pendant 1 heure, c'est pas un problème. Un enfant, non, c'est quelques minutes à chaque fois, donc il faut faire par petits morceaux de quelques minutes, c'est... Voilà.
Mais enfin, parce qu'il y a un risque si on fait plus longtemps?
Non, il n'y a pas un risque, c'est leur façon de fonctionner. Ils sont plus rapides, simplement. C'est pas le même esprit, hein. Un adulte, il a un esprit formé, développé, il y a eu un énorme travail qui a été fait pendant des années et des années, hein, tout l'apprentissage qu'il a fait, l'éducation, etc. Alors qu'un enfant, ben, c'est un cerveau beaucoup plus vierge, en quelque sorte, hein, qui n'a pas cette maturité et donc qui ne fonctionne pas de la même manière.
De quoi souffrent ces enfants que vous rencontrez?
C'est très variable. C'est très variable. Souvent, c'est du stress ou ce sont des angoisses. Il y a beaucoup d'angoisses. Angoisse générée par des situations qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne maîtrisent pas. Hein, des divorces, par exemple, effectivement, des séparations ou des choses plus profondes, plus personnelles.
Hein. Est-ce que l'hypnose, selon vous, va encore avancer dans ses découvertes et ses possibilités?
Ah, je pense qu'on est qu'au début. Effectivement, on a appris énormément de choses les dernières décennies, hein, depuis les travaux d'Erickson, disons qu'il a commencé en 1930, ça fait pas très longtemps au niveau de la science. C'est quand même la psychologie en général est une science très jeune. et la psychologie de l'inconscient aussi. Donc on va forcément découvrir de nouvelles choses, on va apprendre de nouvelles techniques, c'est évident.
Alors j'ai vu qu'en 2008, il y a eu une formation brève pour les chirurgiens dentistes aussi.
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que ça permet d'agir sur la douleur et sur la peur. Donc pour les chirurgiens dentistes, de mettre le patient sous hypnose, ça lui permet de travailler de façon beaucoup plus tranquille et que le patient supporte beaucoup mieux.
Mais alors, je reviens à cette recherche de l'inconscient. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des réactions après une séance d'hypnose, qui évacuent en pleurant ou en riant ou...
Oui, bien sûr. Alors, il y a différentes sortes de réactions, effectivement. Il y a des gens qui... j'ai eu une patiente il n'y a pas longtemps, qui me dit que ça fait 20 ans qu'elle n'a pas pleuré, et puis pendant la séance d'hypnose, plein de larmes qui ont coulé, parce que c'était bloqué par des raisons psychologiques. On a fait sauter le verrou pour pouvoir la libérer de ce poids du passé, et elle s'est mise à pleurer. Il y a des gens qui ont des réactions qui sont tellement sous pression, je dirais, intérieurement, que dès qu'on les met sous hypnose, alors qu'on n'a encore rien fait de thérapeutique, hein, simplement les mettre dans l'état d'hypnose, poum, ça sort tout seul. Et ils se mettent à avoir des crises de sanglots, à pleurer. Et puis il y en a d'autres qui trouvent ça très drôle et qui sont très contents des changements et qui se mettent à rire en plein milieu de la séance. Hein.
Alors nous avons une question de Martine. Martine, bonjour.
Oui, bonjour. Voilà, j'aurais aimé poser une question. J'aurais aimé savoir s'il y a des personnes qui sont réfractaires.
Alors, comme j'ai expliqué, oui, il y a des gens qui... On peut bloquer l'état d'hypnose, hein, comme on peut s'empêcher de dormir. Si vous voulez passer une nuit blanche, c'est très facile. Hein.
Je pense pas que ce soit la même chose, quand même.
Si, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que, bon, on ne fait pas forcément volontairement dans le cas de l'hypnose, mais comme j'ai expliqué à un autre moment de l'émission, c'est surtout dû au manque de confiance. Confiance... dans l'hypnothérapeute, et puis confiance dans soi-même aussi. Il y a des gens qui ont peur de ce qu'il y a dans leur esprit.
Donc vous pensez avoir de... Excusez-moi, vous pensez avoir de l'influence sur les personnes, en fait?
Ben, si vous voulez faire de la psychothérapie, il faut forcément avoir de l'influence, parce que si vous n'avez pas d'influence, ça ne sert à rien.
Bon, moi, personnellement, je suis un peu sceptique. Voilà, ça, c'est, enfin, c'est mon point de vue. Hein.
Oui, alors l'influence, elle est due à la communication, elle n'est pas due à l'hypnose. Là, en ce moment, je vous parle, je vous explique des choses, ça vous influe, c'est une influence sur vous, forcément. Hein,
Oui, mais il ne faut pas rentrer dans le cliché, là aussi, de dire, l'hypnothérapeute va m'influencer et a le pouvoir de m'amener à faire n'importe quoi.
Alors, pour ne pas mélanger influence et manipulation.
Oui. Hein.
Effectivement, l'influence, un hypnothérapeute, il va travailler dans l'intérêt du patient.
Non, il faut plusieurs séances, il faut plusieurs séances avant de pouvoir hypnotiser une personne, ou la première fois, vous avez le pouvoir d'hypnotiser une personne.
Alors, l'hypnose, ce n'est pas un pouvoir. Hein. Ce sont des techniques.
C'est quoi ?
Ce n'est pas un pouvoir. Hein, je n'ai aucun pouvoir, moi. C'est juste des techniques, des choses qui s'apprennent, tout le monde peut le faire. Hein. C'est une question d'apprentissage.
Tout le monde peut le faire.
C'est pas être médecin, on n'a pas un pouvoir de guérisseur.
Hein, d'accord.
C'est pareil. Donc, c'est très variable suivant les gens. Il y a des gens qui rentrent dans l'état d'hypnose en quelques secondes, et puis d'autres, il faut le travailler pendant des heures. C'est variable. Mais tout le monde peut le faire.
D'accord.
Voilà, Martine.
Merci. Bon, personnellement, je suis encore sceptique, excusez-moi.
Ah bah, je crois que
c'est vrai. Le mieux pour vous, c'est très d'essayer, comme ça.
Oui,
c'est sûr.
Et après, vous nous rappellerez, Martine.
D'accord, merci.
Pour me dire comment ça s'est passé.
Oui, je le sais déjà, croyez-moi.
Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Alors, si vous permettez un commentaire, oui. Typiquement, c'est une personne qui a des a priori sur l'hypnose, hein, et qui donc va tout faire pour ne pas rentrer dans l'état d'hypnose. Et ça, c'est très facile à faire, hein.
Oui.
Malheureusement.
Eh bien, Christophe Chaumy, merci de nous avoir donné de votre temps. Stage en Ardèche qui débute quand?
Au mois de juin.
Au mois de juin.
Donc, juin, juillet, août.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite un bon printemps et un bel été.
Merci.
Et merci pour votre disponibilité.
Je vous en prie, merci.
Au revoir.